présenter son ouvrage. Ensuite, je vous propose un débat afin de répondre à vos questions. Alors, faire peau neuve des rituels à l'épreuve du monde. J'ai fait une petite synthèse pour présenter le livre rapidement. Faites lors de séjours et reportages par le monde, des rencontres t'ont inspiré quatre récits nourris pour certains de faits réels qui, nous le savons tous, réveillent aussi l'imaginaire. Des rituels, réels ou non, se mettent alors en place pour servir de quête. Parcourir la Caraïbe où se croisent les quêtes d'un baron du cigare dominicain et d'un vieux paysan haïtien. Ensuite au Portugal et en Afrique lusophone où la magie n'a pas dit son dernier mot. Partir à la recherche du fruit perdu entre Caucase et les Balkans, dans cet entre-deux en constante ébullition. Enfin, en Atlantique du Nord, où un incroyable jeu d'échecs est source de mouvement. Dans cet ouvrage, Claude, tu fais référence à de nombreux endroits géographiques. Tu nous donnes un certain nombre de détails. La première question d'ordre général que je te poserai, c'est pourquoi cet exergue ?
On va peut-être le citer. Alors, en exergue, c'est une phrase d'Hermann Hesse, tirée de Siddhartha. C'est la sagesse qu'un sage cherche à communiquer a toujours un air de folie. Ça a été écrit en 1922. Et ça me ramène à l'adolescence où j'avais découvert Hermann Hesse avec son ouvrage Le Loup des Steppes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, la sagesse qu'un sage cherche à communiquer a toujours un air de folie. Alors, un air de folie pour l'opéra, c'est l'apogée d'une œuvre où le chanteur fait montre de ses qualités vocales. Alors, je ne sais pas si la sagesse fait montre de ses qualités vocales, mais en tout cas, les propos de Siddhartha m'interpellent et je les trouvais tout à fait en résonance avec le propos que j'ai développé dans cet ouvrage « Faire peau neuve à l'épreuve du monde ». Parce que Siddhartha pense que le savoir peut se communiquer, mais pas la sagesse. Siddhartha, il a étudié, il a été au contact, et on lui a appris des savoir-être, des savoir-faire, mais il va aller plus loin. Ce qu'il cherche, en fait, c'est le sens de la vie, de l'existence. Et je crois que c'est ce que nous cherchons toutes et tous. Vous qui êtes ici, et que je salue d'ailleurs, vous êtes venus nombreux, j'en suis ravi. Et il y a en plus de l'intergénérationnel, je vois qu'il y a quelques jeunes. C'est plutôt réconfortant. Et merci en tout cas d'être là. Donc ce que cherche Siddhartha, c'est le sens de la vie, de l'existence. Et c'est ça, on peut le trouver qu'à travers sa découverte personnelle. Le deuxième point qui me paraît important dans cet ouvrage et ce personnage, c'est qui dit chercher d'y avoir un but. Mais ce qui est important, à mon sens, c'est de trouver. Car trouver, une fois qu'on a trouvé, c'est être libre. C'est être ouvert à tous, sans restriction. Et Dieu sait si ça peut nous parler dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et puis, le troisième point, alors, ça suppose aussi, oui, être libre, c'est qu'on ne doit pas s'embarrasser de doctrines, quelles qu'elles soient. Et moi, c'est ce qui guide un peu ma vie et mes écrits. Puis le troisième point, c'est que le véritable changement dans une vie, il passe par l'action. En tout cas, c'est mon point de vue. Et je citerai Camus dans le mythe de Sisyphe qui dit « Il vient toujours un temps où il faut choisir entre la contemplation et l'action. Cela s'appelle devenir un homme. » Après, on peut discuter là-dessus. Mais en tout cas, voilà, le troisième point qui me paraissait important, et c'est pour ça que j'ai choisi cet exergue-là.
Merci Claude. La seconde question d'ordre général, elle est liée au thème général de cette 10e édition. c'est-à-dire rituel au singulier, rituel au pluriel. Effectivement, il faut mettre un cadre à ce qu'on appelle un rituel, et ce qui nous intéresse en ces instants, c'est le cadre que l'auteur y met. Alors, comment définis-tu le mot rituel d'abord, et en quoi ces récits qui nous emmènent dans des univers fort différents, au plan géographique, temporel, culturel, l'illustrent?
Alors, on pourrait parler des heures, et il y a des personnes ici présentes qui pourraient mieux en parler que moi, hein, du rituel, des rituels. Ça pourrait faire l'objet d'un cours de longues heures, et, voire d'un master, pourquoi pas. Pour moi, le rituel, bon, effectivement, la première réaction qu'on a, c'est de dire c'est quelque chose qui règle, en fait, qui est réglé. Et la deuxième, c'est qu'il y a une sorte de dimension sacrée dans le mot rituel. Et là, je m'arrêterai sur ce sens de sacré qui, pour moi, est important, parce que ça ne veut pas dire une dimension divine ou religieuse. Je le prendrai sacré dans le sens de sacré radical, comme le nomme le psychosociologue, chercheur et poète René Barbier, qui dit, je le cite, « sacré au sens de quelque chose qui échappe à notre entendement et pourtant que l'on perçoit quelque chose dont on ne peut pas faire la preuve, mais dont on peut faire l'épreuve. » Et moi, ce sens-là de sacré radical qui nous renvoie, le radical nous renvoie à nos racines, les racines qui sont en nous. Et c'est celles-là qu'il faut faire éclore et qui doivent nous porter pour trouver et donner un sens à notre vie. Voilà, alors on pourrait aussi dire que le rituel a des effets psychologiques, sociaux, on ne peut pas séparer ce terme-là de la notion du collectif, du groupe. Et ça, on va peut-être en reparler à travers les écrits. Et le deuxième point, c'est que ce mot rituel est porteur de signification, donne du sens. Et le symbolisme est aussi l'expression d'un certain nombre de valeurs, de culture, d'idées culturelles. Donc tout ça, c'est complexe. Mais comme l'homme est complexe, donc voilà un peu vers quoi je suis parti. Dans ce travail d'écriture.
Oui, mais toi, tu développes quand même le rituel sous une forme un peu particulière, dans le sens que pour beaucoup, le rituel implique une forme de régularité de fonctionnement, la répétitivité des gestes, des paroles, des codes qui sont mis en place, une des situations dont les enjeux ne varient pas. En résumé, le rituel, pour beaucoup, c'est un repère qui est sûr, une forme de bornage. Or, dans ton ouvrage, tout est mouvement, comme souvent dans tous tes bouquins d'ailleurs, avec les risques qui en découlent. Qu'est-ce dire, Claude ?
Je prendrai ça, simplement un exemple, l'exemple du rituel de passage d'Ebi Jagos. Ça fait partie des nouvelles, on va dire, d'un des écrits. Où en fait le groupe, vous savez, les Bijagos, c'est un archipel qui est au large de la Guinée-Bissau, et entre cet archipel d'îles isolées et la côte, il y a la mer, l'océan, avec des courants très très forts. Et donc le jeune, pour devenir plus grand, pour devenir un homme, est envoyé sur une pirogue. Il doit traverser les courants, etc. Et doit ramener un objet de la capitale ou de la ville la plus proche qu'il va trouver. Un objet qui est lui-même à une dimension, devient sacré quelque part. Et moi je me souviens parce que tout ce que j'écris en fait, ce sont des fictions mais qui sont tirées de mon vécu. De reporters, de voyageurs, etc. Et quand j'ai découvert cet archipel, j'ai eu l'occasion de vivre un retour d'un de ces jeunes qui avait ramené un réveil. Parce qu'en fait, il faut ramener un objet qui abat dans les villages. Il avait ramené un réveil et ça avait quelque part révolutionné. C'était à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien. Révolutionné le groupe. Et donc, ça avait mis en mouvement à la fois, dans ce rituel de passage, le jeune garçon. Ah, pour le coup, c'était du mouvement, aller chercher, traverser la mer, etc. Et en même temps, avec l'objet qu'il ramenait, ça donnait une nouvelle dimension collective avec cet objet, qui est considéré comme un objet sacré. Donc voilà, le mouvement, il est partout. Et donc, comment vivre sans bouger, sans être en mouvement? Si ce n'est pas physique, c'est en tout cas par l'esprit, ça peut être par le cœur, voilà. La dimension humaine mène forcément au mouvement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais en tout cas, moi, je suis convaincu de ça. Et d'ailleurs, quand on prend... On peut sans trahir tout, un rituel maçonnique génère forcément un mouvement à travers des mouvements réels, physiques, mais aussi à travers tout ce qui va se passer au sein du collectif. Dans l'écoute figée, mais combien encourageant pour bouger, pour se remettre en cause, pour être à l'écoute. Donc forcément faire peau neuve, quelque part. C'est le sens un peu du titre. Faire peau neuve à l'épreuve du monde. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que toute rencontre, toute expérience autre que sa propre expérience génère le mouvement en soi est une sorte de métamorphose.
Merci. Donc le cadre général de l'ouvrage étant, on va dire, plus ou moins défini, on va passer aux choses sérieuses. Et puis donc on va parler donc du premier récit que tu nous proposes.
Allons-y.
C'est l'histoire sanguinaire. Son titre, Le Puma au sang noir. Alors c'est l'histoire d'un destin croisé dans une région du monde en mouvement, la Caraïbe, qui t'a inspiré deux destins. Le premier, à travers la saga des Fuentes et la quête de Carlito à la recherche du tabac au sang noir. Le second, celui de Baptiste, qui cherche à identifier un ouvrier maçon, pas franc-maçon, sacrifié deux siècles auparavant. Inspiration née d'un vécu, ta marque de fabrique, mais la fiction ici s'invite, ce récit en témoigne. Alors explique-nous.
Alors vous savez que la République dominicaine et Haïti font partie de la même île. Jacques connaît bien. Et donc il se trouve que l'an dernier, j'étais en République dominicaine et j'ai été faire un reportage sur les barons du cigare dominicain. Il se trouve que j'ai rencontré Carlito Fuente, j'ai conservé son nom d'ailleurs, volontairement, et qui m'a conté la saga de cette famille sur quatre générations, entre Cuba, Tampa aux États-Unis, le Nicaragua, la République dominicaine et Haïti. Ça, c'était une base, donc je ne vais pas la livrer ici parce que ça casserait un peu le suspense. Et jeune, et ça, c'est la fiction qui intervient. Jeune, il rencontre au Nicaragua où il a passé son enfance, il rencontre un vieil indien Sumu. Les Sumu, c'est des peuplades qui vit dans le nord-est du Nicaragua. Et donc, lui, il a 7 ans à l'époque, 7-8 ans. Il rencontre ce vieux Sumu qui dit, mais ton père a un tabac magnifique, mais il faut maintenant que tu cherches le tabac au sang noir, qui va donner plus tard le puma au sang noir, qui est le nom d'un cigare que j'ai imaginé, qui est d'une pure qualité. Donc la quête de celui qui a tout gagné, avec des tas d'épreuves, parce que toute quête est sujette à épreuves. Et comme souvent, les rituels de passage, etc., sont sujets à épreuves. C'est ce qui fait la marque de ce mouvement. Et donc, voilà, il a tout gagné. Il est devenu richissime. Il voyage dans le monde entier. Il a des boutiques de luxe de Dubaï à Shanghai, en passant par Moscou, hier, les États-Unis, etc. Mais depuis tout petit, il a cette quête en lui, c'est de retrouver, c'est pas long, de retrouver ces fameux plants géants de tabac noir que lui a fait miroiter l'Indien Sumu. Les Indiens qui étaient, c'est eux qui ont donné toute la puissance au tabac, à la fois sacré et quotidien. Et c'est ça qui est intéressant dans les rituels aussi, c'est qu'il y a ces doubles dimensions, une dimension un peu pragmatique du rituel, mais aussi une dimension fortement symbolique, je le disais. Et en revanche, le vieux Baptiste en Haïti, lui, jeune, c'est un paysan, vieux paysan, petit paysan, quoi. Il arrive à 60 ans, c'est déjà un bel âge dans ce pays qui est dramatiquement livré aux tyrans, aux mafias de tous ordres. Enfin, c'est un pays qui est toujours en train de se déliter. Enfin, et c'est aussi le sens des écrits, c'est que tout ça s'inscrit aussi dans une réalité, dans une actualité. Et moi, je ne peux pas m'en soustraire de ça, parce que c'est ce qui nous entoure. Hein. Et c'est ce qui fait aussi changer les gens, hein, d'être conscient de cette réalité. Et lui, jeune, il a découvert la citadelle La Ferrière en Haïti, qui est une citadelle qui a été érigée après le départ des Français. Vous savez qu'Haïti est le premier pays qui s'est libéré du joug colonial et qui a été le premier pays noir, entre guillemets, à obtenir l'indépendance. Et donc, les nouveaux dirigeants construisent cette citadelle, La Ferrière. 20 000 personnes y travaillent. Ça se passe entre 1802 et 1820. Il y a 2000 morts, enfin, c'est un truc, c'est impressionnant, quoi. Vous y allez, ça vit encore cette époque-là, quoi. Rien n'a quasiment changé. Et cette citadelle a été érigée notamment, c'est dans la montagne, c'est une petite montagne, mais a été érigée, le ciment a été colmaté avec du sang de chèvre et de vache, mais aussi du sang humain. Des ouvriers qui travaillaient là, des ouvriers maçons. Et il y a une pierre d'angle, donc ça c'est moi qui l'imagine, une pierre d'angle où le sang d'un de ces ouvriers réquisitionné par le roi. Il y avait un roi, puis il y avait un président de la République qui se battait, parce que après l'indépendance, ça se passe souvent avec des guerres civiles, des luttes armées, malheureusement. Et lui, la quête de sa vie à ce vieux paysan, c'est de retrouver le nom de l'ouvrier qui est dans cette pierre d'angle, qui soutient quasiment toute la forteresse. Ça, c'est symbolique aussi. Donc les voilà partis dans leur quête. Destin croisé. L'un recherche le sang noir qui est dans la pierre, et l'autre le sang noir du tabac magique.
Merci Claude.
Ça, c'est le cadre. Après, il se passe plein de choses, évidemment.
Alors, dans ton texte, moi j'ai repris une phrase du texte, je vais vous la lire. Il y a un dialogue entre Carlito et le vieil indien. Ça m'amènera à poser deux questions. Donc, le vieil vieil Indien répond à Carlito, « Sache, petit, que l'une des plus belles actions dans la vie est de rendre heureux les autres. Ton père y travaille, mais il faut donner beaucoup de soi. Sache aussi que la perfection est la prime ambition. » Alors moi, j'ai deux questions. La première, c'est, est-ce que tu peux développer un peu la phrase? Et la seconde, quel est le rôle exact de ce vieil Indien? Est-ce que ça serait le Virgile de Dante dans la Divine Comédie? Ou un gourou, ou un chaman, ou un sorcier, ou ce qu'on veut?
J'aime bien Jean-François, tu as toujours des références littéraires, c'est dit. Alors, le vieux Sumo, il est révélateur quelque part. C'est-à-dire, il est là pour. C'est le vieux Sumo qui se réveille. Mais... tu as parlé de sorcier, donc.
Oui, c'est ça.
Sachez qu'au Brésil, on m'appelait Français Feiticeiro, le français sorcier. Donc... c'est bon? Ouais, ça a l'air d'être bien, la Russie. Oui, donc c'est le révélateur, c'est celui qui vient perturber en fait une vie qui n'est pas si tranquille que ça, hein, parce que je vous ai dit, cette famille, elle a vécu des événements, elle a dû reconstruire deux fois la manufacture de tabac à Tampa, parce qu'elle avait brûlé au Nicaragua, parce qu'elle avait été bombardée, enfin, etc. Et... Il est à la fois, il joue peut-être justement ce rôle de sage. C'est-à-dire de. Pas de sachant, justement, mais de sage, celui qui est en capacité d'éveiller à la conscience des qualités à défendre, à illustrer. Et c'est ça le message qui passe à Carlito, qui à l'époque, dans le récit, a moins de 10 ans. Et c'est ça qui va déclencher justement ce mouvement, cette quête, et qui va le rendre peut-être insatisfait toute sa vie, en dépit des succès glorieux. Donc il y a un message aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit guider une vie, quel sens donner à sa vie, à l'existence. Bon, voilà, la question est posée. Après, elle sera peut-être résolue à la fin. Voici. Et la deuxième question, c'était.
Peux-tu développer.
Ah oui, par rapport à.
Par rapport à la phrase, à la réponse du vieil Indien.
Quand il dit la perfection.
Quand il dit, voilà, c'est ça. Sache aussi que la perfection est la prime ambition.
Oui, bah je crois que tout chemin de vie nous pousse à chercher le meilleur de soi-même. Alors, est-ce à dire que c'est la perfection? Je ne pense pas qu'un jour un être humain puisse l'atteindre. Ou alors, s'en serait fini de sa quête et de sa vie et de son existence. L'idée est là. L'idée, c'est cheminer, tenter de cheminer vers la perfection, mais surtout pas chercher l'apothéose, quoi. C'est-à-dire ne pas chercher à devenir Dieu. Car il faudrait être sûr qu'il existe.
C'est un autre discours. Nous allons passer au second récit. Pour moi, je trouve que c'est le plus joli. Donc voilà, je vous donne mon fond de pensée.
Ben, c'est normal, c'est pour ça qu'il débute.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, ça parle du Portugal.
Ah,
donc c'est un pays qui est proche de nous. C'est un pays qui comporte de nombreux vestiges. Il y a plein de choses à voir. Donc ce récit s'intitule « La montagne qui chante ». C'est l'histoire de João, c'est un jeune colon portugais en Angola, ses parents sont, je crois, exploitants miniers en Angola. Et ce jeune colon, donc, dans son enfance, va connaître des expériences fortes avec la profondeur des abîmes, avec ce qu'il y a sous les pieds. De retour d'Angola au Portugal, pour se délivrer de ses peurs, il confie son destin au Bruxo, c'est un sorcier, qui conduira jusqu'à Sintra, et bien plus loin encore. Alors là, c'est plus une histoire de sang, c'est une histoire de sorcier blanc, de sorcier présent. Et tout cet imaginaire questionne, quel rapport avec le rituel? Ça, c'est la première question.
Alors peut-être resituer l'histoire. Oui, c'est un Jean. Jean, c'est un fils de colon qui vit dans le nord-est de l'Angola, c'est-à-dire dans ces régions minières qui ne sont pas encore trop développées à l'époque. Il n'y a pas encore les multinationales qui ont débarqué. Et ce sont des petits exploitants miniers, souvent portugais, qui lancent le travail là-dessus. Et lui, petit, il a chuté dans un puits de mine, dans une région alluvionnaire, donc il ne s'est pas fait mal, mais il est resté plusieurs jours. Tout le monde le cherchait et ça a été une expérience douloureuse. Et il vit une deuxième expérience douloureuse de chute dans une cascade. Enfin, ouais. Et donc, en fait, c'est un travail sur la relation entre les ténèbres et la lumière. Et donc, il faut s'en sortir. C'est la guerre civile. Il part au Portugal et là, sa tante lui conseille de rencontrer ce qu'on appelle un bruxo. Bruxo, c'est le sorcier, mais c'est le sorcier blanc, c'est-à-dire qui est plus ou moins toléré par le Vatican d'ailleurs. C'est l'existence d'êtres qui sont en lien, en compassion avec celui qui souffre et qui ont souvent eu des expériences malheureuses dans leur vie. Mais qui sont plus ou moins reconnus par le Vatican et qui ont un pouvoir assez fort, encore aujourd'hui d'ailleurs, dans ce pays d'Europe. Tout ça influencé bien sûr par ce qu'a été ce pays à travers les voyages de ses conquérants, l'établissement de Portugais en Afrique, au Brésil, etc. Et donc, il va rencontrer ce bruxo qui va le diriger vers un lieu qui correspond en fait à ce qui lui est arrivé depuis tout petit, c'est-à-dire cette chute. Et donc, il faut trouver une solution pour qu'il remonte vers la lumière quelque part. C'est ça l'idée du récit. Et là, il y a un lieu magique que vous connaissez peut-être à Sintra, au Portugal, qui est le puits initiatique. C'est un puits de 35 mètres de profondeur qui se situe dans une quinta de Regueira, qui a été construite par un Portugais qui avait émigré au Brésil, qui est revenu et qui est richissime et qui remplit ce lieu de plein de symboles ésotériques, mais de toutes sortes. Et dont ce puits initiatique, 35 mètres de profondeur, des escaliers en colimaçon qui descendent sur 9 étages, et une croix des Templiers au fond, une rose des vents, pardon, cherchez le mot, comme si le souffle venait aussi des ténèbres. Et en bas, il y a des galeries qui sont bonnes. Ouais. Et donc moi, plutôt que de le faire descendre, comme le font généralement les gens qui visitent, je le fais arriver, alors il a grandi évidemment, par les ténèbres, et il va passer le rituel initiatique en trois fois, avec trois voyages, celui de la terre étant effectué, celui de l'eau, du feu et de l'air. Mais à chaque fois, il s'exporte dans une des régions propices à ça. Donc le voyage de l'eau, ben, il va vivre le rite de passage au Bijagos. Le feu, il va découvrir la relation au volcan des habitants de l'île de Fogo, au Cap-Vert. Et l'air, eh ben, il va découvrir cette montagne qui chante à Santo. Et à chaque fois, il revient au puits initiatique. Donc c'est un travail sur, sur ces voyages qui sont liés au rituel dans de nombreuses cultures.
Ça m'étonne, moi, ce qui m'étonne, c'est vrai que quand on est touriste et qu'on va visiter le puits initiatique, on fait toujours descendre. Alors on a toujours l'impression que c'est plus une course au trésor que la réalisation de l'image de montrer ce qu'est un puits initiatique. Je vous invite à y aller, c'est vrai que c'est une belle construction.
Sachant que la première rencontre de Jean avec le Bruxo, justement, se fait à Braga. Je ne sais pas si vous connaissez Braga, l'église de Bonfim, où il y a des immenses escaliers, un chemin de croix, et il y a une chapelle des ténèbres. Et la première rencontre se fait dans cette chapelle des ténèbres. Et après, il chemine un peu sur les escaliers des cinq sens. Donc là aussi, il y a tout un travail sur les sens, et notamment sur le sens du toucher, voilà, qui apparaît dans une des fontaines de cet escalier des cinq sens. Donc il y a tout ce travail de documentation sur ces lieux qui sont très forts au niveau symbolique et ésotérique, et puis ce parcours de vie qui va se terminer ben, comme il se doit.
Donc, pour revenir au rituel, dans ton texte, tu emploies deux termes. Le premier, je ne parle pas le portugais, vous m'excuserez pour la prononciation, morada aberta, demeure ouverte, corps ouvert en somme, et le second, corpo fechado, corps fermé, et tu précises, en parlant du corpo fechado, celui-là est invulnérable à tout, armes, sortilèges, accidents, mauvais sort. Éclaire-nous sur ces deux formes de rituels, parce que j'ai un peu l'impression que c'est une idée un petit peu quand même transversale de l'ouvrage.
Oui, alors, morada abierta, c'est la demeure ouverte, en fait. La demeure ouverte, c'est l'âme ouverte. Enfin, c'est justement le Bruxo, il est morada abierta, parce qu'il est ouvert à l'autre, aux souffrances, aux tourments de l'autre. Et donc, il va se mettre en capacité de rentrer en lien avec lui et de le soulager avec différents rituels, justement, des produits, des gestes, etc. Alors que corpo fechado, ça c'est un terme plus lié à la macumba brésilienne, le corps fermé, c'est-à-dire... Moi j'ai vécu cette expérience assez extraordinaire d'accompagner entre Florianópolis et Porto Alegre, j'avais 22 ans. Il n'y avait pas encore les autoroutes et le gars il doublait, enfin j'étais dans sa voiture et il doublait sans mettre de clignotant la nuit, il éteignait ses phares, mais je dis mais on va se tuer, ah, non problème, je suis corps fechado, je suis corps fermé, donc rien ne peut m'arriver, c'est ça l'idée, donc c'est l'opposé quoi. C'est-à-dire, il y en a un qui est ouvert et l'autre il est tellement protégé par les esprits, etc., qui peut tout se permettre. Et d'ici j'éteins mes phares, de toute façon, puis en plus je verrai mieux les phares en face. Ouais. Mais si l'autre est corpo fechado aussi, c'est ça peut faire des clashs. Voilà. Donc c'est un peu un jeu que j'ai voulu mettre là-dedans, mais les Portugais, ils sont héritiers quelque part de ça aussi. Et c'est pour ça que c'est un pays assez fascinant, au-delà de la morue et du fade.
Enfin, ce récit nous amène jusqu'au Mozambique. Tu parles des Macondé et des tatouages. Quelle est cette tradition?
Alors, les Macondé, c'est une tribu, voilà, un peuple qui vit au nord-est, en plein du Mozambique, sur les hauts plateaux, à la frontière tanzanienne. Et ils sont réputés pour leurs tatouages, effectivement. Mais des tatouages très, très stylisé. C'est-à-dire, c'est des zigzags, c'est des lignes droites, c'est pas du tout imagé en tout cas. Ça peut être des losanges, des cheveux. Enfin, et c'est surtout concentré sur le visage. Mais sur ces hauts plateaux et ces Macondés, ils ont été aussi le ferment de la lutte pour l'indépendance. À tel point que leurs tatouages, d'ailleurs, ont été interdits par la suite, par les libérateurs, enfin ceux qui ont gagné la guerre contre le Portugal, qui ont interdit. Donc, vers les années 1960, il n'y a quasiment plus de tatouages. Il y a encore quelques maîtres tatoueurs, mais c'est en train de disparaître. Et pourquoi j'en ai parlé ? Parce que c'est une façon d'inscrire aussi ce rituel, parce que là, c'est un véritable rituel aussi, pendant les rites de passage des jeunes filles et des garçons. C'est là où ils sont tatoués. Et c'est l'expression aussi d'une forme de... Je parlais de valeur liée au rituel. Là, c'est le courage qui est mis en avant. C'est-à-dire, ils en étaient au point où, parce que pour faire des scarifications profondes, ça fait extrêmement mal. Donc, ils avaient soit la position de l'aigle, donc ils étaient tenus par les bras de chaque côté, comme un aigle, les ailes déployées, et là, le tatoueur travaillait. Soit ils enterraient le jeune, sauf la tête, évidemment, pour pas qu'il puisse bouger souffrant. Voilà. Mais c'était important, c'était une façon de le reconnaître en tant qu'homme. Et d'ailleurs, les mauvais garçons du village... qui étaient tatoués aussi, mais étaient tatoués différemment que les autres. Donc on leur faisait simplement des petits traits ici sur le front. Ils étaient marqués à vie de l'opprobre de la communauté. Ça aussi, c'est la valeur qu'on peut donner à un rituel qui s'inscrit dans le collectif. Et en même temps, je te disais auparavant, dans un événement politique, dans une histoire politique d'un pays, d'une société en tout cas. Donc là, on voit la dimension très forte de ce que peut être le rituel. Voilà, c'était c'est une page ou deux, hein, c'est pas, mais ça me paraissait important d'évoquer cette histoire-là, justement dans le contexte de la guerre d'indépendance qui a quand même duré, et de la guerre civile après, qui a duré encore plus longtemps. En tout cas au Mozambique et en Angola.
Alors bien sûr, dans ce récit, mais dans tous les récits, c'est un thème qui t'est cher, vous y découvrirez aussi la relation de l'homme et de la nature, des communions qui peuvent se produire. Moi, je ne vais pas aller plus loin, on n'a pas beaucoup de temps et en plus, on ne va pas développer. Autrement, je vous lis le récit. Et puis...
Non, je veux simplement dire que les deux autres, il y en a une qui se passe sur du Kosovo au Caucase. En fait, c'est la recherche de la pomme d'or, c'est-à-dire du coin. Le coin qui est un fruit qui a une symbolique très très forte au plan universel, d'ailleurs, de la Corée. En passant chez les Mapuches et au Chili, la Grèce antique, la Rome antique, les traditions géorgiennes, etc. Et donc le rituel qui est décrit là, c'est le rituel du supra, du banquet géorgien, qui remonte lui aussi au banquet de Platon quasiment, et qui est dans une région où Prométhée a été accroché sur le... dans les hauteurs. Enfin voilà, donc c'est une région fortement symbolique aussi. Et moi j'ai eu la chance de vivre un de ces supras, encore dans la période soviétique, j'en ai vécu après, et où le rituel là servait vraiment d'expression d'une capacité à dire les choses sous un régime totalitaire. C'est-à-dire que c'était un lieu protégé. Une auberge avec souvent des gens qui se connaissaient quand même, qui étaient soit des intellectuels, des poètes, mais aussi des commerçants, etc., qui, grâce à ce rituel et cette pratique du banquet, où le principe est de le maître de cérémonie distribue la parole, on l'appelle le tamada, il est choisi par le groupe, donne un thème de discussion, et chaque membre doit s'exprimer sur ce thème. Et si un des membres n'est pas en capacité de s'exprimer, le tamada est destitué, on élit un autre tamada. Le seul problème de ce banquet, c'est qu'à chaque prise de parole, on boit des toasts. Donc vous imaginez 30 participants, ça fait beaucoup de toasts. Mais il faut quand même garder l'esprit clair, parce qu'on est quand même à l'époque sous des pressions un peu.
Pour aiguiser un peu votre curiosité, il faut quand même resituer l'histoire. C'est l'histoire d'Umberto, c'est un jeune français qui est né près de Manosque, qui se retrouve effectivement dans ce banquet géorgien. Et à la suite de ce banquet, géorgien va le conduire dans une quête d'un fruit perdu jusque dans les ruines d'Ani, ancienne capitale d'Arménie.
En Turquie aujourd'hui.
En Turquie aujourd'hui.
Alors là,
dans ton récit, tu parles de fruit de la discorde. Alors pourquoi le fruit de la discorde?
C'est toute la légende de la pomme de la discorde. Alors, sachant que la pomme d'or, en fait, c'est le coin. C'était un fruit mythique dans l'Antiquité grecque. Et en fait, c'est lié à la pomme qui est jetée par la déesse de la discorde lors d'un mariage et qui désigne celle qui sera choisie. Enfin, elle met la discorde parmi les autres déesses. Donc ça, c'est la symbolique antique. Mais là, ça prend une autre dimension. C'est donc la référence, parce qu'on traverse quand même une région qui est... Kosovo, c'est pas tranquille non plus, hein, même aujourd'hui. Donc moi, ça me permet d'aborder aussi la question des... Parce qu'il y a toujours des intentions derrière, d'aborder la question des minorités qui vivent au Kosovo et qui sont complètement délaissées par la communauté internationale. Vous avez des Égyptiens au Kosovo, vous avez un certain nombre de Gorinés, vous avez des Croates, etc., qui sont complètement laminés aujourd'hui. Et puis l'Anatolie, vous avez dans la région de Dani, justement, cette cité archéologique, mais qui faisait 200 000 habitants au moment de la route de la soie, c'est-à-dire qui était plus grosse qu'Istanbul, enfin que Constantinople à l'époque. Vous avez le Caucase, la Géorgie, les soubresauts sont permanents, et puis le sud de la Russie, on est autour de la mer Noire, donc c'est une région qui est en ébullition permanente. Et donc il y a eu toujours des mouvements de migration entre des minorités qui quittaient la Russie à un moment donné pour rejoindre, surtout le Kosovo d'ailleurs, accueilli par les Kosovars, etc. Donc ça, c'est aussi, l'intention, elle est là aussi, c'est-à-dire à travers la quête du fruit perdu, c'est de remettre en perspective une réalité, quoi. Ce qui est en fait mon job aussi.
Et enfin, une dernière question, tu parles du kénosis, du dépouillement.
Ouais.
Est-ce une forme de rituel aussi?
C'est plus une sorte de doctrine, quoi, qui est liée surtout à l'Église orthodoxe, où on se dépouille, hein, c'est ça. Mais c'est plus anecdotique, ça. C'est pour donner un peu de couleur à l'écrit.
Merci, nous allons passer donc au dernier récit de cet ouvrage, qui s'intitule « Les faux hommes ». Alors tout commence dans les Hébrides, en Écosse. Ce texte nous fait parcourir donc l'Écosse, la Norvège, l'Islande, avec un petit détour par Beyrouth. C'est l'histoire d'un jeu d'échecs venu de la nuit des temps, égaré puis retrouvé avec des pièces manquantes. Il est ici question de paix dont on a tant besoin, et d'un rituel qui lui est dédié du côté de l'Islande. Donc cette fois, Tepa nous mène plus vers le nord de l'Europe, en des époques bien sûr différentes, puisque là on va traverser un espace-temps qui est quand même assez large. Alors, rien n'aurait-il changé depuis des siècles? On a l'impression que ce qui se faisait au XIVe siècle se fait encore aujourd'hui. Là.
Oui, du XIIe siècle.
Même. XIIe siècle.
Oui, parce qu'en fait, les pièces d'échecs, c'est un jeu d'échecs qui a été retrouvé sur l'île Lévis. Enfin, il y avait plusieurs jeux d'échecs et il manquait des pièces. Et donc, des échecs qui ont été gravés par des sculpteurs et tailleurs norvégiens, enfin, scandinaves, norvégiens. Et qui ont été retrouvés vers 1800. Sous un rocher au bord d'une plage. Et donc l'idée, c'est la quête, c'est de retrouver ces cinq pièces manquantes, sachant que c'est tout un travail sur la notion de paix. Et Dieu sait si notre 21e siècle n'y échappe pas. Et donc ce sont des gens qui vont se mobiliser. Donc il y a notamment un romancier norvégien, etc., pour travailler là-dessus et faire renaître un ordre de chevalerie viking et qui était attaché à la paix. Parce qu'il y avait... Donc c'est l'occasion aussi de tisser un lien justement entre le passé et la vie contemporaine. Et il y avait notamment un rituel, enfin une pratique rituelle très forte, c'est pendant les batailles entre clans vikings ou autres, c'était celle du bouclier blanc qu'on dressait au milieu de la bataille pour stopper la bataille. C'est comme si, par exemple, en Ukraine aujourd'hui, il y avait un bon citoyen qui arrivait avec un bouclier blanc. Ça, c'était une pratique qui se faisait sous les pires vikings qui ont existé, les pires chevaliers. Et il y avait d'autres symboles liés à ça. Et donc ça m'a paru intéressant de travailler un peu là-dessus et de remettre en perspective ces pratiques d'alors qui ont existé aussi en Russie et chez les Francs d'ailleurs, parce que j'ai eu connaissance d'un fait qu'en 880, dans la région hollandaise qui appartenait aux Francs, à Aster, il y avait eu recours à, enfin, d'après des textes, c'est toujours les textes qui nous rappellent un peu ce qui se passait dans ces temps-là, d'après les sagas, ils avaient eu recours dès 880 à ce bouclier blanc. Donc moi je fais renaître cet ordre des vaillants guerriers de la paix. Voilà. Donc c'est pour terminer les récits sur une note d'harmonie collective dont on a bien besoin aujourd'hui.
Enfin, dans ce dernier récit, tu développes deux autres idées. La première, c'est l'idée de l'apprenti qui dépasse le maître. Je parle des constructeurs du jeu d'échecs. Et puis enfin, la seconde idée, qui se réfère bien sûr à l'échiquier, tu parles de jeu de guerre et de jeu de paix. Donc deux idées qui sont opposées, qui sont développées au cours de ce récit.
Oui, parce que le jeu d'échecs, en fait, c'est le jeu le plus violent qui ait jamais existé, quoi. Échec et mat, ça veut dire le roi est mort. Ça vient d'Iranien, ça veut dire ça. Donc, on doit s'interroger sur ces jeux. Alors, je me suis amusé à faire partir l'auteur norvégien, l'écrivain norvégien, dans une vieille boutique de Beyrouth, parce que les hasards des voyages font que des fois on découvre des choses assez extraordinaires. Et cette boutique-là conserve et est spécialisé dans les jeux antiques, alors réels ou reproduits, qui viennent du monde entier, quoi. Et il y a notamment des jeux d'échecs scandinaves, hein, vikings, ils avaient déjà, alors c'est pas tout à fait la même dimension, il y a des jeux d'échecs plus pacifiques que d'autres, hein, c'est où on tue pas le roi. Voilà, donc tout ça c'est dire, ouais, bon, nous on est dans une culture sans doute intéressante, mais il y a aussi ces dimensions guerrières qui nous habitent en permanence, quoi. Voilà, et l'autre, c'était... Alors, l'élève dépasse le maître, je crois que plus que... Je m'inscris dans une logique de transmission. Et chose que de faire en sorte que l'élève dépasse le maître. D'autant plus dans des temps qui changent, dans des temps en mouvement, encore une fois. Et ce jeune apprenti a tout compris, puisqu'il va construire les pièces manquantes, en fait... ne représente rien de guerrier. Mais j'en dirai pas plus.
Merci. Une toute petite dernière question quand même. Quel message veux-tu faire passer à travers ce dernier opus?
Je crois que le message, il est dans le titre, hein. Faire peau neuve à l'épreuve du monde. C'est ça, c'est que la quête, le mouvement génère toujours une métamorphose, quoi. Une évolution. Enfin. Et on le constate chaque fois qu'on se met en capacité d'être en contact avec l'autre, à l'écoute de l'autre, du collectif, et les rythmes. C'est encore un sorcier qui... Du collectif, et c'est ça qui est la magie aussi, peut-être de ce lieu. Quoi.
Mesdames et messieurs, j'espère que Paris de vous faire pénétrer l'univers de l'auteur et son imaginaire est tenu à cette conférence. Donc, je vous laisse la parole pour quelques questions si vous en avez.
Claude, merci beaucoup pour cette conférence, encore une fois nourrie, un voyage comme dans tes livres. Simplement, je veux savoir si il s'agit pour toi du 8e voyage initiatique à travers cet ouvrage.
Ah, je ne voulais pas faire voyage initiatique tome 2, quoi. Ouais. Mais c'est le même esprit, tu as raison, c'est dans cette logique d'aller à la découverte du monde et d'en sortir changé, de s'être enrichi et peut-être d'avoir enrichi l'autre aussi, quoi. Donc c'est dans ce sens que c'est initiatique, hein, c'est sûr. Mais ouais, ça rejoint ce que je disais avant, hein, c'est... Et puis je crois qu'il y en aura toujours, quoi. Donc attendez-vous à un prochain.
D'autres questions?
Il y en avait une? Non. Oui.
Oui, dans votre discussion introductive, là, vous avez parlé du rôle du rituel dans l'élaboration du collectif. Est-ce que le rituel peut avoir un sens, voire même une existence, en dehors du collectif?
Oui, je pense que... Oui, oui. Oui, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai un rituel le matin... Je suis un certain cheminement de la sortie du lit jusque... Mais je ne dirai pas tout. Et ça n'intéresse que moi. Donc oui, mais c'est-à-dire là, c'est ce que je disais, la double dimension du rituel qui est à la fois instrumental, quelque part, et puis symbolique aussi, d'autre part. Et c'est toujours un va-et-vient entre les deux. Donc, oui, ça peut être aussi personnel. Mais moi, je le vois surtout dans la dimension, l'intérêt est dans la dimension collective. Enfin, après, c'est un point de vue. Oui.
Dans les écoles maternelles, le matin, c'est un petit peu comme toi quand tu te lèves, il y a un certain nombre de pratiques... l'appel, la date, la météo, et on fait ça tous les jours, et on appelle ça un rituel. Et c'est un rituel qui a une fonction éducative. Non, éducative, alors je tords un petit peu le cou aux étymologies, hein, mais enfin dans éducative, il y a l'idée d'aller, de conduire à l'extérieur. Il y a l'idée d'ouverture. Et puis, on parle aussi, notamment ici par exemple, de rituel, et tu en as parlé aussi, initiatique. Et là, je tords encore un petit peu plus le cou à l'étymologie, mais initiatique, ça commence par in, dedans. Donc, y aurait-il des rituels éducatifs qui conduisent vers l'extérieur, qui libèrent, et des rituels initiatiques qui entraînent vers l'intérieur et qui, excuse-moi, d'une certaine manière, enfermeraient?
Alors, moi, je suis un tenant du rituel qui libère, quoi, évidemment. Oui. Parce que c'est sûr que... Il peut y avoir des rituels qui enferment, ça c'est évident. Il n'y a qu'à voir par exemple dans le domaine sectaire. Ou... Mais je ne peux pas imaginer une autre façon de voir le rituel que dans son aspect libérateur. Et ceux que j'ai pu découvrir ou approcher comme ça, alors pas franchement dans le détail, mais pour certains, oui. Comme dans les rituels de Macumba, par exemple, où j'ai quand même pénétré cet univers pendant plus d'un an. Quoi. C'est à la fois, alors là c'est le paradoxe, c'est à la fois enfermant, mais finalement libérateur aussi. Quoi. C'est-à-dire c'est une expérience forte qui peut être source de liberté. Dans ce que j'ai pu en voir. Jacques.
Oui, Jean-François, merci. Merci Claude pour ton exposé, très 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 intéressant. Une chose qui m'a frappé, c'est ton rapport par rapport à l'échiquier, dont tu annonces que le roi est mort, le roi est échec, est mat, et il est mort. Dans le texte introductif que j'ai préparé pour ouvrir ce cycle de conférences, j'ai fait référence au rituel, avec une majuscule, qui est le rituel de la mort du roi. Parce que pour que vive le roi, il faut que le roi soit mort, par définition. Mais pour qu'il y ait un rituel d'ouverture, il faut qu'il y ait un rituel de fermeture. Le patinage artistique se produit sur une patinoire avec de la glace. À l'extérieur, il n'y a pas de glace. Ils sont enfermés, mais ils sont libérés par leur enfermement même. C'est-à-dire que dans les figures libres, vous avez des figures quasiment parfaites. Ceux qui sont champions du monde, champions olympiques, quand vous les voyez, c'est absolument époustouflant, ils arrivent près de la perfection. Sont touchés par la grâce. Et l'initiation, c'est bien, comme on disait Christian tout à l'heure, in, mais c'est aussi out. C'est-à-dire qu'on ne peut sortir de soi-même que si on s'est d'abord enfermé. Et Claude, je suis désolé, ton rituel du matin, merci maman, merci maîtresse, merci tout le monde autour de toi, qui t'a construit ton propre rituel individuel. Il n'est devenu individuel parce qu'il a été collectif avant.
Bien sûr.
Sauf à être psychiatrique, être un obsessionnel compulsif qui entre dans des rituels anormaux, on a tous hérité de rituels du collectif qui nous ont déroulé.
Je vais vous lire quatre lignes sur la fin du rituel que j'ai imaginé pour l'ordre. C'est le grand maître qui s'exprime. D'ailleurs, l'apprenti était devenu grand maître, succédant à son maître. Le passé nous l'enseigne, le présent nous le dicte, l'avenir nous en sera reconnaissant. La souplesse des ponts estompe la rigidité des murs. Les armes ne sont que leurs face à la volupté de l'esprit. Le dialogue convie à toutes les promesses accomplies. Génie.
Merci Claude. D'autres questions? Ah oui, ça sera la dernière, donc vous allez juste dans l'horaire.
Ah bah c'est super.
Claude, tout à l'heure, tu as fait intervenir Dieu en parlant de la perfection. Sans entrer dans des polémiques religieuses, est-ce que tu pourrais développer?
J'ai combien de temps? Oui, oui et non.
Je préfère
C'est bien. Oui et non, ça me suffit.
Merci. Donc je vais me risquer à une petite conclusion.
Vas-y.
Claude, chaque année tu me surprends. Je m'attendais à vivre à travers ce livre des rituels inconnus. J'ai découvert bien d'autres facettes de ton art de la transmission. En nous ouvrant les yeux, tu modifies notre manière de percevoir les choses, les êtres et celle d'aborder les événements. Peut-être est-ce cela faire pour l'œuvre. Faire pour l'œuvre des rituels à l'épreuve du monde n'est pas qu'une simple fiction, ce sont les fragments du vécu, de l'expérience qui nous transportent aux confins des chemins initiatiques. Merci l'ami pour ces thèmes éducatifs. Un dernier point, et ça je m'adresse à chacun d'entre vous. Si par hasard vous aviez l'intention de visiter cet été un des pays cités dans l'ouvrage de Claude, eh bien, n'allez pas acheter en librairie un guide touristique. Munissez-vous du dernier manuscrit et suivez ses pas. Ils vous conduiront dans des endroits insolites pour découvrir effectivement ce que beaucoup de guides ne nous livrent pas, la grâce des paysages et du monde, l'amour des hommes qui résulte de la fusion de l'air, de l'eau, du brick et de la terre. Mesdames et messieurs, merci et bon week-end sur les imaginales maçonniques et ésotériques et les imaginales tout court des
plus.
Donc, vous